82. L'homme qui entra était grand et musclé. Il avait une longue moustache blonde retroussée aux extrémités et son visage était encadré d'un collier de barbe, laissant la pointe du menton et la lèvre inférieure imberbe et apparemment moite. Il avait les cheveux si blonds et taillés si courts qu'à un bref instant, le désagréable souvenir de Mycogène revint hanter Seldon. Le nouveau venu portait indubitablement un uniforme, rouge et blanc, avec un large ceinturon clouté d'argent. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix basse, résonnante, dont l'accent différait de tout ce qu'avait entendu Seldon. Il trouvait les accents exotiques souvent grossiers, mais celui-là semblait mélodieux, peut-être à cause de sa richesse en intonation grave.
« Je suis le sergent Emer Talus. »
se présenta l'homme dans une lente succession de syllabes grondantes.
« Je suis venu chercher le docteur Harry Seldon. »«
C'est moi, » répondit l'intéressé. Puis, en aparté, pour Dorse, « si Hermine n'a pas su se déplacer en personne, il a sans doute dépêché ce superbe quartier de viande pour le représenter. » Le sergent gratifia Seldon d'un regard impassible et un peu prolongé. Puis il ajouta
« Oui, vous correspondez au signalement. » Suivez-moi, je vous prie, docteur Seldon.
Après vous. Le sergent s'effaça. Seldon et Dorse Venabili s'avancèrent. Le sergent s'arrêta et leva sa grosse patte, la paume tournée vers Dorse.
J'ai reçu instruction d'emmener avec moi le docteur Harry Seldon. Mes ordres ne parlent de personne d'autre.
Un instant, Seldon le fixa sans comprendre. Puis son étonnement laissa place à la colère.
« Il est tout à fait impossible qu'on vous ait dit cela, sergent. Le docteur Dorse Venabili est mon associé et ma compagne. Elle doit absolument venir avec moi. »«
Ça ne correspond pas à mes ordres, docteur. »«
Je me contrefiche de vos ordres, sergent Talus. Je ne bougerai pas d'un pouce sans elle. »«
Qui plus est ?» ajouta Dorse avec une irritation manifeste.
« Mes ordres à moi sont de protéger le docteur Seldon en permanence. Je ne puis le faire qu'en restant avec lui. Par conséquent, où qu'il aille, je le suis. »
Perplexité du sergent.
Mes ordres sont stricts. Je dois veiller à ce qu'il ne vous arrive rien de fâcheux, docteur Seldon. Si vous ne voulez pas venir de votre plein gré, je vais devoir vous porter jusqu'à mon véhicule. Je vais tâcher de le faire en douceur.
Il étendit les deux bras comme pour le prendre à la taille et l'emporter à la manière d'un colis. Seldon recula vivement. En même temps, il abattit le tranchant de sa paume droite sur le bras du sergent, là où le muscle était le moins épais, frappant ainsi l'os. Le sergent inspira violemment et parut tressaillir, puis il se retourna, le visage impassible, et avança de nouveau. Davan, qui observait la scène, resta figé là où il était, mais Reich passa derrière le sous-officier. Seldon réitéra son coup, une deuxième, puis une troisième fois. Mais cette fois, le sergent Talus, anticipant l'attaque, abaissa l'épaule pour l'encaisser dans le gras du muscle. Dorse avait sorti ses couteaux.
« Sergent !»
lança-t-elle d'une voix forte.
« Tournez-vous dans cette direction !»« Comprenez bien que je serai peut-être obligé de vous blesser sérieusement si vous persistez à emmener le docteur Seldon contre son gré !»
Le sergent s'immobilisa, considéra avec gravité les lames qui décrivaient de lents cercles devant lui, puis répondit.
« Mes ordres ne m'interdisent pas de malmener d'autres personnes que le docteur Seldon. »
Et avec une vivacité surprenante, sa main droite se porta vers l'étui du fouet neuronique pendu à sa ceinture. Tout aussi vite, Dorse brandit ses lames. Aucun des deux n'acheva son mouvement. Se ruant en avant, Reich avait poussé le sergent dans le dos, de la main gauche, tandis que la droite le délestait de son arme. Il s'écarta rapidement, tenant à deux mains le fouet neuronique, et lança
« Les mains en l'air, sergent, ou vous allez y avoir droit !»
Le sous-officier pivota, et un rictus nerveux traversa son visage cramoisi. Ce fut le seul instant où son impassibilité devait être prise en défaut. Il gronda
« Pose ça, fiston. Tu sais pas comment ça marche. »«
Je sais qu'il y a un cran de sûreté, » hurla Reich. « Il est relevé et on peut tirer. » Et je m'en priverai pas si vous essayez de me sauter dessus. »
Le sergent se figea. Il savait clairement quel danger il y avait à laisser un gamin surexcité tripoter une arme meurtrière. Seldon n'avait pas l'air plus rassuré. Fais attention, Reich, lança-t-il. Ne tire pas. Ne laisse pas le doigt sur le contact.
Je vais pas le laisser me sauter dessus.
Il ne le fera pas. Sergent, je vous en conjure, ne bougez pas. Mettons les choses au point. On vous a dit de m'emmener d'ici, c'est bien exact.
C'est exact,
confirma le sergent qui, de ses yeux légèrement exorbités, continuait à fixer le jeune garçon, lequel, pour sa part, l'observait avec la même intensité. Mais on ne vous a pas dit d'emmener quelqu'un d'autre, est-ce exact?
Non, on ne me l'a pas dit, docteur,
répéta le sergent avec fermeté. Il n'allait pas en dévier, même sous la menace d'un fouet neuronique. C'était manifeste. Fort bien. Mais écoutez-moi, sergent. Vous a-t-on donné l'ordre de ne pas emmener quelqu'un?
Je viens de vous le dire.
Non, non. Écoutez, sergent, il y a une différence. Vos ordres étaient-ils simplement emmener le docteur Seldon? Était-ce là l'instruction dans son intégralité, sans mention de qui que ce soit d'autre? Ou bien vos ordres étaient-ils plus précis? Étaient-ils énoncés comme suit: emmenez le docteur Seldon et lui seul? Le sergent rumina la question, puis répondit.
« On m'a dit de vous emmener, docteur Seldon. »
« Donc, on ne citait personne d'autre en aucune façon. N'est-ce pas ?» Un silence.
« Non. »
« Vous n'aviez pas emmené le docteur Venabili, mais on ne vous l'interdisait pas non plus, n'est-ce pas ?» Un silence.
« Non. »
Donc vous pouvez l'emmener ou ne pas l'emmener, à votre guise. Long silence.
Je suppose que oui.
Bien. À présent, voici Reich, ce jeune garçon qui tient un fouet neuronique braqué sur vous. Votre fouet neuronique, je vous le rappelle. Et qui brûle d'en faire usage. Ça ouais ! S'exclama Reich. Pas tout de suite, Reich, dit Seldon. Et voici également le docteur Venabili, avec deux couteaux qu'elle sait utiliser en experte, ainsi que votre serviteur, qui peut, si l'occasion se présente, vous briser d'une main la pomme d'Adam au point que votre voix sera réduite à un murmure. Alors maintenant, voulez-vous emmener avec vous le docteur Venabili, oui ou non? Vos instructions vous laissent le choix. Et finalement, le sergent dit sur le ton de la défaite,
« Je vais emmener la femme. »
Et le garçon Reich.
Et le garçon.
À la bonne heure. Ai-je votre parole d'honneur, votre parole de soldat, que vous allez faire comme vous avez dit, honnêtement?
Vous avez ma parole d'honneur de soldat, dit le sergent.
Bien. Reich, rends-lui le fouet tout de suite. Ne me fais pas attendre. Avec une grimace dépité, Reich regarda Dors qui hésita, puis hocha lentement la tête. Elle avait l'air aussi déconfite que lui. Reich tendit le fouet au sergent en disant « C'est eux qui m'y forcent, espèce de grand... » La fin de sa phrase était inintelligible. Seldon poursuivit. « Rangez vos couteaux, Dors. » Dors hocha la tête, mais elle obtempéra. « Et maintenant, sergent ?» Le sergent regarda le fouet neuronique, puis Seldon, et dit «
Vous êtes un homme d'honneur, docteur Seldon, et je m'en tiens à la parole donnée. »
Là-dessus, claquant les talons, il rengaina son fouet neuronique. Seldon se tourna vers Davan. « Davan, oubliez, je vous prie, ce dont vous venez d'être le témoin. C'est de plein gré que tous trois nous allons accompagner le sergent Talus. Dites à Hugo Amaril quand vous le verrez que je ne l'oublierai pas. Et que dès que cette affaire sera réglée et que j'aurai retrouvé ma liberté d'action, je veillerai à son admission dans une université. S'il m'est possible de faire quelque chose pour votre cause, Davan, je le ferai aussi. Et maintenant, sergent, en route !»